السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلنحمد الله العزيز الرحيم الذي يسر لنا فعل الخيرات وأحيانا حتى أدركنا شهر رمضان، وها قد مضى ثلث هذا الشهر المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم التقصير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Après avoir loué Allah tabaraka wa ta'ala et prié sur son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, je disais qu'on le remercie, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a maintenu en vie jusqu'à entrer dans ce mois béni tant attendu. Puis il nous a permis de vivre ce premier tiers du mois de Ramadan. Falhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter nos faibles actions et de nous pardonner nos imperfections et nos péchés, tout comme nous lui demandons son aide et son assistance pour ce qui nous reste du mois de Ramadan et de notre vie. Wa billahi tawfiq. Wa ba'd, ikhwani al-kiram, sanabda'u insha'allahu ta'ala bi qira'ati aw fi qira'ati متن وكتاب مبارك معروف للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الرحمن المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اسمه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وهو كتاب جمع فيه الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى أحاديث في الأحكام، مما اتفق الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما على صحته أو على صحتها. وتجد في بعضها أن الإمام البخاري قد تفرد، أو الإمام مسلم رحمة الله عليهما. Nous allons commencer inshallah ta'ala l'étude d'un célèbre livre, un livre très connu auprès des gens de science et de leurs élèves, et même auprès du commun des musulmans. Ce livre se nomme Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, c'est un épître qui a été écrit par le grand savant Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, qui est le cousin d'Ibn Qudama, Al-Maqdisi, qui est très connu, Sahib Al-Mughni wa Lumatul I'tiqad, et d'autres livres célèbres et connus auprès des gens de science. قلت ابن عبد الرحمن هو ابن عبد الواحد، هو الإمام الحافظ الكبير أبو محمد لوتر سنام بيان ساكونيا أبو محمد. il s'appelle عبد الغني، il s'appelle عبد الغني ابن عبد الواحد، il s'appelle عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي رحمه الله تعالى. هو من فلسطين، هو من فلسطين ومات بمصر، مات بمصر الـ en l'an 541 de l'Égypte. Il est né en l'an 541 de l'Égypte et il fait partie des grands savants de la communauté ayant une croyance ferme sur la voie des pieux prédécesseurs, rahimahullah ta'ala. Il est décédé en l'an 600. Il est né en 541 et décédé en l'an 600. C'est un livre qui réunit des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui ont été authentifiés tant par l'imam al-Bukhari que par l'imam muslim. Ce sont donc les hadiths ayant le plus haut niveau, le plus haut degré d'authenticité. Naam. Les hadiths ayant le plus haut degré d'authenticité sont les hadiths rendus authentiques par l'imam al-Bukhari et également l'imam muslim. Puis les hadiths cités que par l'imam al-Bukhari. Lui, ce cité que par l'imam muslim. Et si tu veux, tu dis ce sont les ahadiths sur lesquels se sont entendus l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Puis, les ahadiths qui remplissent les conditions de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim. Puis, les ahadiths cités par l'imam al-Bukhari. Puis, les ahadiths répondant aux conditions de l'imam al-Bukhari. Puis, les ahadiths cités par l'imam muslim. Puis, les ahadiths répondant aux conditions de l'imam muslim. Et tout cela s'étudie dans les cours de Mustalah al-Hadith. Et du livre, nous allons prendre, incha'Allah ta'ala, durant ce mois béni, Kitab al-Siyam. Ce sont des hadiths qui ont été classés selon les abwab, les chapitres de fiqh. Donc ils commencent par al-Tahara, ensuite al-Salat et ainsi de suite. Nous allons prendre la partie concernant al-Siyam, car hada min fiqh al-Zaman, car nous sommes dans ce mois. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, comme l'a rapporté Abu Huraira, ne précédez pas le Ramadan par le jeûne d'un jour ou deux, à l'exception de l'homme qui observe un jeûne régulier, qu'il le jeûne. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان. Allah na nahiya. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ne précédez pas. Ne faites pas précéder Ramadan, c'est-à-dire le mois de Ramadan, le 9e mois, bi siyami yawmin ou bi sawmi yawmin wa la yawmayn. Ne jeûnez pas avant l'entrée du mois de Ramadan, un jour avant ou deux jours avant. Le ou ici, non, ça veut dire ni un jour avant, ni deux jours avant. Et la négation ici est une interdiction. Le la plutôt ici est le la d'interdiction. Illa rajulan kana yasum sawman. Exception faite d'un homme qui jeûnait un jour, c'est-à-dire en dehors de cette période, c'est son habitude. Il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala par un jeûne régulier. Comme ceux qui jeûnent, waffaqahumullah, le lundi et le jeudi, en suivant la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Naam.
si la veille ou deux jours avant tombe un lundi ou un jeudi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ici فَلْيَصُمْهُ, qu'il le jeûne. Dans ce cas-là, il sort de l'interdiction. Et il lui est permis ou recommandé de jeûner ce jour. Voici le hadith, le premier hadith de ce chapitre, qui est sinon le 174e hadith du livre Amdatul Ahkam. موضوع الحديث حكم سبق رمضان للصوم. Quel est le sujet de ce hadith? Notez que le sujet de ce hadith est le jugement de précéder l'entrée du mois de Ramadan par le jeûne d'un ou de deux jours. Le sujet du hadith est le jugement de faire précéder ou devancer le mois de Ramadan par le jour d'un, par le jeûne d'un jour ou de deux jours. Ici, le prophète alayhi salam nous interdit de jeûner un jour avant et ou deux jours avant et deux jours avant, c'est-à-dire le 30e jour du mois ou le 29e jour du mois s'il est complet ou naqis. Et ici illa hadha al-istithna istithna munqati' bima'na lakin, quand on nous dit sauf, ici c'est exception faite, sauf un homme, illa rajulan, hada tagliban, il s'englobe aussi les femmes, que ce soit un homme ou une femme, ça a le même jugement. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala, dans le sharh de ce livre, et ce livre a de nombreux shuruhat, de nombreuses explications, parmi ces shuruhat le Sharh d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, et parmi ces shuruhat il y a le Sharh de Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, qui est très répandu et beaucoup enseigné. Naam. Et je me suis basé sur ces deux écrits de ces deux grands savants et d'autres annotations pour cette explication. Donc Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Salih, nous dit لما كان الصيام عبادة محدودة بوقت معين, du fait que le jeûne du mois de Ramadan est bien défini dans un temps déterminé, ni il ne peut être avancé ni il ne peut être reculé, si ce n'est avec une excuse valable pour le fait de jeûner plus tard après Ramadan. Donc كان من حكمة الشريعة أن يلزم العبد بهذا التهديد. La législation et sa sagesse a voulu pour le serviteur qu'il respecte minutieusement ce délai. C'est-à-dire qu'il ne peut commencer le jeûne de Ramadan avant l'entrée du mois, ni le retarder. Et Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam rahimahullah ta'ala nous dit الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات والفرائض والنوافل. يعني la sagesse de ce jugement, il nous dit wallahu a'lam, que le législateur sage veut nettement distinguer entre les actions qui sont obligatoires de celles qui sont recommandées, tout comme il distingue entre les adorations et les habitudes. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on nous a interdit de jeûner juste avant? Pour qu'il y ait une distinction claire entre le jeûne recommandé dans le mois de Sha'ban et le jeûne qui est le pilier de l'islam et cette grande obligation, le jeûne du mois de Ramadan. La première mas'ala, la fin, concernant la fin du mois de Sha'ban. Il est interdit de jeûner la fin du mois de Sha'ban par précaution en ayant comme conviction que c'est l'entrée du mois de Ramadan. Il est interdit de jeûner la fin du mois de Sha'ban, de faire précéder le jeûne de Ramadan d'un jour, en se disant que ça fait partie du mois de Ramadan et qu'on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers cela. Naam. Et qu'on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers cela. Car le prophète alayhi salatu wa salam nous a interdit cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. Quant à celui qui jeûne avant le mois de Ramadan, mais sans avoir cette conviction, les savants ont divergé. Même si l'avis qui est le plus en adéquation avec les textes est de dire qu'il ne faut pas faire cela. Soit c'est makruh, c'est détestable, soit c'est muharram, c'est interdit. Mais il a été affirmé que certains parmi les sahaba, comme Abdullah ibn Omar, comme Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et 4 ou 5 autres, jeûnaient, na'am, dans un cas précis, c'est lorsqu'il y avait un obstacle, quand il y avait un obstacle la nuit du doute entre la vision et la lune, comme le brouillard, comme la poussière, comme une tempête, comme la pluie et autres. Eux, dans cette situation, ils jeûnaient le 30e jour. Dans cette situation, ils jeûnaient le 30e jour, sans considérer que c'est obligatoire, sans considérer que ça fait partie de Ramadan et sans ordonner cela. Ce qui a poussé certains savants à dire que c'est permis. Ce qui a poussé certains savants à dire que c'est permis, même si les textes nous montrent que le mieux est de ne pas faire cela. Même si les textes nous montrent, comme dit Ibn Azim rahimahullah ta'ala, certains disent même carrément que c'est interdit, qu'il ne faut pas faire cela. Il y a des jours où il n'y a aucun doute que c'est haram, quelle que soit la situation. Les jours qui sont interdits aux jeunes, c'est Al-Idan. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. C'est interdit de les jeûner, mutlaqan. Même pour celui qui a l'habitude de jeûner, par exemple le lundi et le jeudi, si ça tombe le Eid, c'est haram pour lui de jeûner. Un autre cas, celui qui a une compensation ou une kafara dans laquelle il doit jeûner shahrayn mutatabi'ayn, il doit jeûner 2 mois d'affilée. C'est connu qu'il n'a pas le droit de faire sauter un jour. Non. Ben dans ce cas-là, si ça tombe le Eid, il n'a pas le droit de jeûner ce jour. Et il reprend ensuite. Pour Eid al-Fitr. Il reprend ensuite pour Eid al-Fitr. Pour Eid al-Adha, il y a l'ayyam al-Tashriq. Et c'est le deuxième cas où mutlaqan n'a pas le droit de jeûner. Donc nous n'avons pas le droit de jeûner yom al-Eid. Al-Adha et yom al-Eid, Eid al-Fitr. D'accord, ce sont les deux premiers jours qui sont interdits au siyam. Troisièmement, ayyam al-tashriq. Ayyam al-tashriq, c'est-à-dire le 11, le 12 et le 13 du mois de Dhul-Hijjah. Naam. Au pèlerinage, ou même en dehors du pèlerinage, il y a l'Eid qui est le 10e jour, n'est-ce pas? Juste après les 3 jours, nous appelons ayyam al-tashriq. Pourquoi? On étudiera cela, Inch'Allah, dans Ahkam al-Hajj. Proche du Hajj, on étudiera cela, Inch'Allah, en détail. Tu n'as pas le droit non plus de jeûner ces 3 jours. Voilà, car le prophète, alayhi sallatou wassalam, nous a enseigné que ce sont des jours de akl wa shurb wa dhikrin lillah. Ce sont des jours où tu manges, tu bois et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on fait attention à cela. On ne mélange pas les hadiths. Ce hadith-là nous montre que si tu as un jeûne régulier, tu as le droit de jeûner, même si c'est la veille de Ramadan ou 2 jours avant. Par contre, pour ces jours-ci, Al-Eid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Ayyam al-Tashriq, tu n'as pas le droit de les jeûner. Et le jeûne du mois de Sha'ban, a plusieurs jugements. Premièrement, le fait de jeûner la plupart du mois de Sha'ban, ou la première moitié, c'est mustahab. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصوم أكثره. Premièrement, jeûner la plupart du mois de Sha'ban ou la première moitié. C'est la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et c'est recommandé. Deuxièmement, ça peut être wajib. Deuxièmement, ça peut être wajib. Dans quel cas ça peut être wajib de jeûner dans le mois de Sha'ban, Yanis? Réfléchis. Et je reviens à toi. Inch'Allah. Ensuite, il y a le cas où c'est makruh, où c'est détestable. Où c'est détestable. Et on a étudié ces termes, makruh, wajib, muharram. Le cas où c'est détestable, selon certains savants, c'est le 29e et le 30e jour. Un jour avant, deux jours avant. D'autres disent que c'est Muharram. Quant à ceux qui rendent authentique ou qui acceptent le hadith, « Idan tasafa sha'ban falata soumu », ils disent également que c'est makruh. Arrivé à la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez pas, bien que ce hadith a été rendu faible par de grands huffaz. Et ceux qui l'ont accepté, na'am, l'ont expliqué. Ensuite, il y a le jeûne Muharram. Dans le mois de Sha'ban, il y a un jeûne qui est Muharram. Comme ceux qui jeûnent le 15e jour, na'am, ta'ziman li hadha al-yawm. Ils jeûnent le 15e jour en accordant une place particulièrement à ce jeûne-là. Ça, c'est une bid'a. Ils disent que la moitié du jeûne, c'est un jeûne particulier, il faut le jeûner, wakada, ils font des choses précises la nuit et le jour, ils le jeûnent. Ça, c'est une bid'a. C'est une innovation. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais fait cela, il nous a jamais enseigné cela, ni sahaba radiallahu anhum. Et pour ceux qui ont accepté le hadith d'un tasafa sha'ban fala tasoumu, arrive à la moitié de sha'ban, ne jeûnez pas. Certains disent que c'était haram dans certains cas. Donc dans quel cas c'est wajib de jeûner dans sha'ban? Dans quel cas c'est wajib de jeûner sha'ban? Anis, a-t-il un jawab? T'as une réponse? C'est une question un petit peu difficile. Non. Celui qui a fait un adhr. Non. Jazakallah khaira. Celui qui doit rattraper des jours du Ramadan de l'année passée. Non. À qui il ne reste que ce moment-là. Lui, il est obligé de jeûner dans Sha'ban. Qui parmi les mères des croyants faisait cela par exemple? Aïcha radiallahu anha. Elle avait des jours à rattraper. Elle ne le faisait que dans le mois de Sha'ban, de par la place qu'occupait auprès d'elle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Elle accordait tellement d'importance à son époux et s'occupait tellement avec perfection de son époux et s'enquérait de ses et se souciait tellement de ses besoins qu'elle retardait les jours qu'elle devait rattraper de manière obligatoire jusqu'au dernier mois, celui qui précède le mois de Ramadan, radiallahu anha. Tayyib, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? La taqaddamu Ramadan bi siyam yawmin wa la yawmin illa rajulan kana yasum sawman falyasum. Min fawaid hadha al-hadith النهي عن سبق رمضان بصيام يوم أو يومين. On tire de ce hadith l'interdiction. Ensuite, les savants divergent est-ce que c'est l'interdiction, c'est du tahrim ou على الكراهية. Quoi qu'il en soit, التحريم, l'interdiction. عن سبق رمضان بصيام يوم أو يومين. L'interdiction de jeûner avant le mois de Ramadan un jour ou deux. Non, il ne faut pas faire cela. نستفيد من هذا الحديث جواز سبق رمضان بصيام ثلاثة يعني بسبق رمضان بثلاثة أيام فأكثر. On tire également de ce hadith la permission de précéder le mois de Ramadan par un jeûne de trois jours voire plus. Est-ce que c'est clair? Vu que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a interdit de jeûner un jour ou deux avant, qu'est-ce qu'on comprend de cela? Qu'on peut jeûner trois jours avant, quatre jours avant, cinq jours avant, et ainsi de suite. Et de là, ça appuie le fait que la deuxième moitié du mois de Sha'ban, na'am, est permise aux jeûnes. Ça, halala. Quatre jours avant Ramadan, trois jours avant Ramadan, ça entre dans la deuxième partie de Ramadan, ou dans la deuxième partie du mois de Sha'ban, ou dans la première? Dans la deuxième, qat'an. Na'am. Ça appuie le fait que le hadith qui dit, « N'al-tasafa Sha'ban, falata soumou » est daif. واضح؟
طيب.
On tire également de ce hadith جواز سبقه بيوم أو يومين لمن كان له عادة. La permission de jeûner un jour ou deux jours avant Ramadan pour celui qui a une habitude. Est-ce que c'est bien compris le terme habitude? C'est wadah pour tout le monde le terme habitude, c'est-à-dire qu'il jeûnait indépendamment de cette situation, lui de toute façon il jeûne. Par exemple cette année, deux jours avant Ramadan ou un jour avant Ramadan, c'est tombé un jeudi. Naam, c'est tombé un jeudi. Certaines personnes pieuses, l'ahsabum kadhalik, jeûnent le jeudi pour suivre la sunna du prophète qui jeûnait le lundi et le jeudi. Car le jeudi, un jour, les actions montent vers Allah tabaraka wa ta'ala et aimer voir ses actions monter vers Allah en état de jeûne. Est-ce que dans ce cas-là, elle a fait cela car c'est un jour ou deux jours avant Ramadan, ou en dehors de ce moment-là, elle a l'habitude, cette personne, de faire ça? Elle a l'habitude d'ittiba' ni sunna taqarruban ila Allah azza wa jal. Donc cette personne-là, il lui est permis ou recommandé de jeûner ce jour. On tire également de ce hadith que l'avis le plus plausible est la permission de pouvoir dire Ramadan sans l'annexer au mois. Est-ce qu'on peut dire Ramadan tout seul sans dire le mois de Ramadan? Oui, la preuve, ici le prophète alayhi wa sallam nous dit la taqaddam Ramadan sans avoir dit shahra Ramadan. D'accord, ça c'est une mas'ala chez les savants. Est-ce qu'on peut dire Ramadan sans dire shahra ou pas? On voit de ce hadith la permission de faire سلا والله أعلم. الحديث الثاني من هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. Il est bon et les savants ont pour habitude lorsqu'ils citent des hadiths de citer un minimum concernant le compagnon qui rapporte ce hadith. Et ceci fait partie du droit du sahabi, نعم, et du حق, نعم, des droits des sahaba sur nous. Les sahaba, ce sont les héritiers du prophète عليه الصلاة والسلام. Ce sont les mères de la communauté. Nous avons l'obligation de les citer quand bien, de faire dua pour eux, de les respecter, de leur accorder une place toute particulière, car ce sont les premiers musulmans, ceux qui ont appris l'islam de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'Allah a choisi pour accompagner le prophète dans sa mission. Ce sont ses ministres et ceux qui ont transmis l'islam après lui, qui nous ont propagé et transmis l'islam, radiallahu anhu. Ils ont donc des droits qui sont immenses sur nous. Naam, et ne les cite qu'en mal qu'une personne qui est malade du cœur, ou même qui n'a aucune part d'islam, wal'iyadu billah, à l'image de Rafidat Dullal, qabbahahumullah. Donc, les sahaba, on doit connaître leur valeur, on doit les aimer, on doit leur accorder une place toute particulière. On doit savoir qui ils sont et ceux qui les ont fait comme travail, et quel mérite ils ont sur nous. Ce sont les meilleurs de toute la communauté et de tous les compagnons parmi les compagnons des prophètes. Ici nous avons Abu Huraira. Abu Huraira c'est sa kunya. Naam, Abu Huraira c'est sa kunya. Et il a été connu et son nom a été répandu ainsi. On le surnomme donc Abu Huraira. Quant à son prénom, il y a beaucoup de paroles, les savants ont divergé. Certains ont dit la vie prépondérant est de dire qu'il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Et le shir de nos mashaykh, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'a rahimahullah ta'ala, disait Ishtuhira bi kunyatihi falyuqal. Il a été répandu, il a été connu sous sa kunya, qu'il soit appelé ainsi. Qu'il soit appelé ainsi. Et l'imam al-Zahabi, si mes souvenirs sont bons, dit Al-Huffaz tabaqat dhurwatuhum Abu Hurayra. Les grands mémorisateurs de l'islam sont de différents degrés. Et leur imam est Abu Huraira. Abu Huraira est le plus grand rapporteur de hadith de l'islam. Naam, c'est le plus grand rapporteur de hadith de l'islam. Ensuite, en dessous de lui, il y a un sahabi. Et Abu Huraira disait, lui, il est meilleur que moi. Car lui, il écrit et il mémorise. Et moi, je n'écris pas, je mémorise seulement. Il avait des difficultés à mémoriser. Il a informé le prophète alayhi wa sallam de cela, qu'il l'a couvert de son vêtement, a fait dua pour lui. Puis, il n'a plus entendu un hadith par la suite qu'il ait oublié. Radiallahu anhu. Et il faisait partie des pauvres parmi sahaba radiallahu anhu. Et il accompagnait le prophète alayhi wa sallam tout le temps à la recherche de la science. Naam. Et il disait qu'Allah pardonne à mes frères. parmi les muhajirin et l'ansar, lorsque Omar ibn Khattab a dit akthara Abu Huraira. Abu Huraira est celui qui a apporté le hadith qui nous enseigne que celui qui prie sur une janaza, un défunt, a une montagne de hasanat. Et s'il reste jusqu'à la fin de l'enterrement, il a deux montagnes. Omar ibn Khattab a dit akthara Abu Huraira. Abu Huraira a trop parlé. Et c'est énorme ce qu'il rapporte ici. Puis, il a envoyé quelqu'un vérifier cela chez Aïcha radiallahu anha qui a acquiescé les dires de Abu Huraira. Lorsque Omar ibn Khattab a dit cela, il a dit combien de montagnes avons-nous perdu. Puis Abu Huraira a trouvé des excuses à ses frères. Il a dit qu'Allah pardonne à mes frères parmi Muhajir et l'Ansar. Il a dit aucune mauvaise parole sur Omar ibn Khattab, son frère en islam. Naam. Il a dit ces gens-là avaient des commerces, avaient des richesses. Naam. Eux avaient des palmiers, eux avaient telle chose, eux faisaient du commerce. Quant à moi, je restais constamment avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la faim au ventre. Et il lui arrivait parfois de tomber de faim. Subhanallah. Il tombait de faim. Naam. Et il sortait la nuit par la faim. Et il suivait sahaba par la faim. Et il leur posait des questions sur des hadiths que lui-même connaissait mieux. En espérant qu'il l'invite chez eux pour lui donner à manger. Jusqu'à ce qu'il fasse cela avec le prophète alayhi salam. Et ce dernier de lui répondre, je sais ce qui t'amène, mais je suis dans la même situation que toi. Naam. Donc il restait toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait partie des Arabes dont leur base est du Yémen. Et il a embrassé l'islam alors que le prophète alayhi wa sallam est à Khaybar. Ensuite il l'a rejoint, il est revenu dans l'islam. Naam. Et il était très pieux envers sa mère. Naam. Il l'invita à l'islam, elle lui a fait entendre de mauvaises choses. Par la suite il a citer cela au prophète alayhi salatu wassalam qui a fait dua pour sa mère, puis sa mère est entrée en islam. Alors Abu Huraira a dit au message d'Allah, envoie qu'Allah pour qu'il n'y ait pas une personne parmi les musulmans qui entende parler de moi, de ma mère, sans qu'elle nous aime. C'est ainsi qu'il n'y a pas une personne qui entend parler d'Abu Huraira sans qu'il ne l'aime lui et sa mère radiallahu anhuma. C'est donc le plus grand apporteur de l'islam. Il a un mérite incommensurable. Nous l'aimons lui et sa famille radiallahu anhum. Le deuxième hadith est le hadith d'Abdullah ibn Omar, hadith 182, qui est le deuxième hadith de ce chapitre. Abdullah ibn Omar fait partie des jeunes parmi les sahaba les plus savants, les plus pieux, les plus motivés dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, les plus forts physiquement, mentalement, dans la science, dans l'adoration. Naam. Et ceux qui ont été pour leurs parents qurratu ayn. Naam. Abdullah ibn Omar est le fils du grand savant, du grand compagnon, du deuxième calife de l'islam, de l'Mubashar bil Jannah, Omar ibn al-Khattab, al-Farouq, al-Khalifatul Rashid. Et c'est le frère d'une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, Hafsa, radiallahu anha. Il a donc pris énormément de science du prophète, alayhi salatu wassalam, mais également de son père et de sa sœur, qui était très proche du prophète, alayhi salatu wassalam. Il nous rapporte ce hadith. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire, quand vous le voyez, c'est-à-dire le croissant de lune marquant l'entrée du mois de Ramadan, quand vous le voyez jeûner, c'est-à-dire commencer le lendemain le jeûne du mois de Ramadan, et quand vous le voyez, c'est-à-dire la nouvelle lune marquant la fin du mois de Ramadan et l'entrée du mois de Shawwal, rompez le jeûne, c'est-à-dire le lendemain. Si sa vision vous est voilée, faites-en une estimation. Si sa vision vous est voilée, c'est-à-dire s'il y a un obstacle entre vous et la vision de la nouvelle lune, naam, par le brouillard, la pluie, une tempête de sable ou autre, d'accord ? S'il y a une chose qui vous empêche de voir la lune, faqdurula. Et sur faqdurula, les savants ont divergé quant à son sens. Ce qui a donné naissance à de nombreuses divergences par la suite. Ce qui a donné naissance à de nombreuses divergences par la suite. موضوع الحديث بما يجب صوم رمضان وفطره. Le sujet de ce hadith est par quoi est marqué l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Quel est le signe qui va nous rendre obligatoire de commencer le jeûne du mois de Ramadan? Un de deux signes. بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ. Il y a le consensus des savants quant à ces deux choses. Nous savons que le jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'islam. Nous savons que c'est obligatoire et que c'est une des actions les plus méritoires. Mais quand est-ce qu'il faudra commencer à jeûner? Cette religion parfaite et complète nous a parfaitement exposé les signes marquant l'entrée du mois de Ramadan et donc l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Le prophète alayhi salam nous dit: Idha ra'aytumou, lorsque vous la voyez face au monde, jeûnez-la, jeûnez-le. Lorsque vous la voyez, c'est-à-dire la nouvelle lune, ou lorsqu'elle a été vue pour vous, en unissant les différents textes, ou lorsqu'elle a été vue pour vous. Et pour ces deux choses-là, les savants ont dit: Ay idha ra'a man thabatat bihi ru'yatuh. C'est-à-dire celui qui rentre dans les conditions de qui on accepte son témoignage ou son information, et suite à la parole de qui nous avons l'obligation de jeûner. Il faut que ce soit une personne, Qawir al-Basar, qui a une bonne vue par exemple. Il faut que ce soit une personne musulmane. Il faut que ce soit une personne intègre. Si c'est un menteur par exemple, on ne prend pas son témoignage. On ne prend pas son témoignage. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, le rapporteur du hadith, nous dit: Tara an-nas al-hilal. Les gens ont cherché la lune. Donc la nuit du doute, c'est une sunnah de chercher la lune. Fara'aytu al-hilal fa akhbartu bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu la lune. J'en ai donc informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a jeûné et informé les gens de ordonner aux gens de jeûner et le lendemain. Abdullah ibn Umar nous montre ici cette sunna. Et que celui à qui parvient l'information ou qui a vu cela a l'obligation de jeûner le lendemain. La fin du hadith est sujet à divergence entre les savants. Faqduru la, estimez le. C'est-à-dire abliruhu qadrahu. Faites-le parvenir jusqu'où il faut. C'est-à-dire que le mois est composé soit de 29 jours, soit de 30 jours. Vous n'avez pas pu voir la nouvelle lune, alors faites l'estimation qui est connue, c'est-à-dire finissez le mois. Est-ce que c'est clair? Finissez le mois, 30 jours. Pourquoi est-ce qu'on dit 30 jours? Car un mois lunaire est composé soit de 29 jours, on appelle ça un shahr naqis, incomplet, soit de 30 jours, on appelle ça un shahr kamil, un mois complet. Et ce qui nous montre que cet avis est prépondérant est d'autres hadiths ou d'autres versions du hadith qui nous dit: fa'akmilu, complétez iddata sha'ban 30 yawma. Complétez le mois de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Et l'explication du prophète alayhi salam prévaut sur l'explication de toute autre personne après lui, aussi savantissime soit-elle, aussi pieux soit-elle, comme as-sahabatul kiram radiallahu anhum. Le sens donc de ce hadith, c'est que le prophète alayhi salam a rattaché le jugement et le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan et le fait de rompre, donc ce qui marque aussi la fin du mois de Ramadan, à une chose claire et évidente. et accessible à tous, afin que les gens soient basés dans leur religion sur des choses claires. Sur des choses claires. Premièrement, ru'yatul hilal, la vision de l'hilal. L'hilal, c'est le filament de lune ou le croissant de lune. Naam, lorsque la lune commence, on appelle ça l'hilal. Lorsqu'elle est pleine, on appelle ça le badr, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui donc qui témoigne du nouveau mois, qu'il le jeûne. Naam. Ici, on nous montre que le premier signe, c'est quoi? C'est la vision de la nouvelle lune. Le deuxième signe, ikmal shahr, compléter le mois jusqu'au 30e jour. Si on ne voit pas la nouvelle lune, on considère que le lendemain n'est pas de Ramadan, mais c'est plutôt le 30e jour du mois de Sha'ban. Puis, donc sur ça, il n'y a pas de divergence. Si le ciel est clair, sahwan, on dit en arabe, Naam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chose qui obstruit la vision. À ce moment-là, il n'y a pas de divergence sur les ulama. On n'a pas le droit de jurer le jour du doute. Dans le cas où il y a un obstacle, quel est le comportement adéquat? C'est de compléter le mois comme étant composé de 30 jours. D'accord? C'est ce qu'il convient de faire et ce qui est obligatoire. Mais dans ce cas, sachez que les savants divergent. Dans ce cas, sachez que les savants ont divergé. Cela revient à la divergence sur le terme faqduru la. Faqduru lahu. Et ici, on voit qu'il nous faut compléter le mois comme ayant 30 jours. On tire de ce hadith que le mois entre est marqué, l'entrée du mois est marquée par l'un de ces deux signes. Donc, la vision de la nouvelle lune est compléter le mois comme ayant 30 jours. De cela, tu comprends la faute de ceux qui propagent en avance le mois de Ramadan, subhanallah. Chaque année, des personnes, et le bien qu'on peut penser d'eux, la bonne opinion qu'on peut avoir d'eux, c'est qu'ils sont ignorants et qu'ils veulent faire le bien. Mais combien de personnes cherchent le bien sans jamais l'atteindre? Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, wa kam min muridin lil khayr lam yudrikhu lam yusibhu. En se basant soit sur les calculs, et ceci n'est pas légiféré. Naam. Soit en suivant aveuglément. Naam. Tu ne peux pas informer en avance. C'est comme si tu pouvais prédire de combien de jours sera composé le mois de Sha'ban, et seul Allah Azza wa Jal connaît cela. Naam. Aucune âme ne sait ce qu'il y aura demain. Naam. Aucune âme ne sait ce qu'il y aura demain. La ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, comme a dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Et Allah nous dit en Coran, qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al-ghayba illa Allah. Personne ne connaît l'invisible si ce n'est Allah, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre. Donc il ne faut pas suivre aveuglément, même si on dit bien vouloir faire. On tire de ce hadith l'obligation de jeûner le mois de Ramadan une fois le mois entré. Et qu'avant cela, ça n'est pas obligatoire. Avant cela, ça n'est pas obligatoire. Et sachez que si une seule personne nous informe, comme on a vu dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, de l'entrée du mois, on doit jeûner. Alors qu'à la base, un témoignage, c'est deux personnes. Mais il y a une preuve. Le hadith d'Abdullah ibn Omar. Et aussi il y a le hadith qui nous dit que déjà Arabi ibn al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a informé de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté sa parole. D'autres ont dit c'est minbab qabul khabar al-thiqa. D'autres ont dit ça entre dans l'acceptation de l'information de celui qui est digne de confiance. D'autres disent c'est un témoignage, mais il y a une preuve, il y a un salif, il y a une qarina qui nous montre que le prophète a accepté, donc on accepte. Sinon, à la base, pour un témoignage, il faut deux personnes. Donc, pour l'entrée du mois, une personne suffit. Pour l'entrée du mois, une personne suffit. On tire de ce hadith عدم وجوب الصوم على البعيد عن مكان الرؤيا إذا اختلفت المطالع. De ce hadith, on tire une information qui nous sert chaque année. C'est que celui qui est loin de l'endroit de la vision, c'est-à-dire que dans un pays, dans un endroit, ils ont vu la lune, mais toi, tu es loin d'eux et vous n'avez pas le même fuseau horaire. On tire de cela que tu n'as pas l'obligation de jeûner avec eux. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas vu toi la lune et tu n'as pas le jugement de celui qui a vu la lune. Comme celui qui l'a vu et qui est venu t'en informer. Celui qui l'a vu et qui est venu t'en informer. Non. Et il y a un texte, et c'est le plus fort qui appuie ça. C'est lorsque Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu n'a pas jeûné le vendredi ou bien le samedi. Non. Alors que les gens du Sham avaient vu la lune vendredi, donc ils ont jeûné. Et les gens du Hijaz, les gens de Medina et autres ont vu la lune le samedi, donc ils ont jeûné dimanche. Ils ont dit à Abdullah ibn Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah, qui était le responsable, radiallahu anhu. Ils ont dit à Abdullah ibn Abbas, ne vas-tu pas te contenter de la vision de Muawiyah? Il a répondu, non. Vous avez vu la lune vendredi, on l'a vu samedi. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que nous a ordonné le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre que c'est la sunna connue chez Sahab. Naam. Et Muawiyah radiallahu anhu m'a atarad. Et Muawiyah radiallahu anhu n'a pas émis de reproche. Ça montre que c'est la sunna mustafidha inda Sahaba radiallahu anhum. On tire de ce hadith wujub al-fitr yawm al-eid. On tire de ce hadith l'obligation de rompre le jeûne le jour du fitr, le jour de Eid al-fitr. On tire également de ce hadith ibtal al-i'timad ala qawli ahli al-hisab fi dukhul al-shahr. On tire également de cela le fait de ne pas se baser sur les calculs astronomiques. Non, on ne prend pas cela en considération. Soit on a vu la lune, on jeûne le lendemain. Soit nous n'avons pas la lune, on considère que ce mois est composé de 30 jours. وَنُرِيحُ أَنْفُسَنَا وَغَيْرَنَا. Ainsi, on s'apaise nous-mêmes et on laisse tranquille les autres de toutes ces nombreuses masa'il, de toutes ces divergences instaurées par Al-Shaytan au sein des musulmans à l'entrée du mois de Ramadan. Avant le mois de Ramadan, les gens ne divergent pas. Une fois le mois de Ramadan venu, Al-Shaytan propage dans les rangs des musulmans pour les distraire de ce pilier et du secours d'Allah et du pardon des péchés, de l'entrée au paradis, de la préservation du feu, il les occupe. Naam, il les occupe sur les heures de salawat, il les occupe sur Ramadan, sur l'entrée du mois, sur les calculs. Naam, et d'autres, wal'iyadhu billah, il les occupe avec des, comment on appelle ça, des feuilletons, des séries et autres. Et la personne, au lieu de venir vers le Coran, et de venir vers la Sunna, et de venir vers le Masajid, le Coran et autres, elle va vers la télé, elle se réjouit, elle dit j'ai vu telle émission, et tel feuilleton, et telle chose, et telle chose. Et Shaitan l'a trompée. Elle pense qu'elle se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala avec sa télé, wal'iyadhu billah. Naam. Donc toutes ces subtilités sont tirées de ce hadith. Et Ibn Bab al-Fa'ida, certains savants ont dit que faqdurula, estimez-le. Naam. Certains ont dit ay dayyiqu, restreignez, yani rendez-le plus court. Serrez l'étau. Ils ont dit faqdurula, ça veut dire resserrer. C'est-à-dire considérer qu'il est composé de 29 jours seulement. D'où ils ont pris ça de la langue arabe, comme dans le Coran. Comme dans le Coran, dans certains versets du Coran, on a ce terme qui est utilisé ainsi. D'accord ? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Celui dont la subsistance a été resserrée. Naam, celui dont la subsistance a été resserrée. C'est-à-dire qu'il a été appauvri ou bien il est pauvre, il n'est pas aisé. Ils ont dit pareillement pour le jour du doute. Si on ne sait pas, parce que la vision a été obstruée, on doit resserrer cela. Nous devons resserrer cela. Mais les autres textes nous montrent que la vie prépondérante n'est pas celui-ci.
Ça signifie akmilu, comme le prophète Aïssa sallam l'a dit lui-même.
Al hadith al-thalith, le troisième hadith, hafidhakum Allah, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit dans ce hadith qui a été rapporté par Anas ibn Malik, prenez le repas du, ou prenez le sahur, car il y a une bénédiction dans cela. Car il y a une bénédiction dans ce repas. Ce hadith est rapporté par Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radiallahu anhu, Ibn Nadr, وأمه أم سليم رضي الله عنهم. Anas ibn Malik est un des compagnons parmi les enfants chez les Ansar. Lorsque le prophète ﷺ est arrivé à Medina, il avait 10 ans. Sa mère Umm Sulaym a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a suivi dans sa religion. Elle a pris son fils Anas ibn Malik et lui a dit: Ya Rasulallah, hadha khuwaydimuk. Voici ton petit serviteur Anas. Je le mets à ton service. Fad'ullah ala. Invoque Allah en sa faveur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui. Allahumma atil fi umri wa kathir fi mali wa awladi. Ou Allah, allonge son âge, sa vie. Donne-lui beaucoup de richesses et accorde-lui beaucoup d'enfants. Avoir beaucoup d'enfants, l'islam, c'est une richesse. C'est une noblesse et c'est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas comme ne le font comprendre certaines personnes dont les compréhensions ont été erronées et troublées par certaines sociétés. Naam, et à qui on fait croire que d'avoir un enfant ou deux enfants seulement, naam, fait partie de, et yani, le fait d'être si savant et le fait d'être en avance sur son temps et vivre dans son temps. Abadan. Allah azza wa jalla imtanna. Allah Azza wa Jalla a montré sa faveur en certaines, dans certaines communautés du fait qu'il leur accordait beaucoup d'enfants. Et le fait d'être stérile est considéré comme une maladie et une épreuve. Et le fait de recevoir un enfant comme un don. Allah dit en Coran: Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Il fait don à qui il veut de fille, ou il fait don, et il fait don à qui il veut de garçon. Naam. Donc le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est un maqsoud shar'i, c'est voulu dans le din. Et le prophète alayhi salam a montré que les meilleures des femmes à épouser, et celui, yani celle vers qui l'homme doit pencher, il nous dit tazawwajul walud ou wadud. Naam. Al-aoud. Épouser celles qui sont douces, fécondes et qui reviennent vers leur mari. C'est-à-dire, quand il y a la moindre dissension dans le couple, elle revient directement vers son mari. Celle qui, elle lui fait un tort, ou il lui fait un tort. C'est-à-dire, dans le premier cas, elle est en tort. Dans le deuxième cas, il est en tort. Elle revient, elle met sa main dans sa main, elle lui dit: je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. Et dans l'autre hadith, lorsqu'elle met en colère son mari. Qu'est-ce qu'on voit dans ce hadith? El Walud, celle qui est féconde. Naam. Et ça, c'est Allah Azza wa Jal qui donne. C'est Allah Azza wa Jal qui donne. Mais le simple fait qu'elle veuille cela, on lui espère la récompense. Même si elle n'enfante jamais, jusqu'à entrer dans sa tombe. Et le prophète Aïssa sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je me vanterai de votre grand nombre yom al-qiyam. Je me vanterai de votre grand nombre yom al-qiyam. Et parmi les sagesses du mariage, le fait d'avoir des enfants. Naam. Le fait d'avoir, de chercher à avoir des enfants qui pleureront la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le bien. Et ce qui est voulu, bien sûr, ce sont des enfants bien, bon, droit, pieux, et ainsi de suite. Pas avoir des enfants pour avoir des enfants. Et dans cela, les gens sont, elles ne sont pas au même niveau. Certaines femmes peuvent enfanter chaque année ou tous les deux ans. D'autres peuvent tomber malades des suites de cela ou ont trop de charges. Yani, ça c'est une autre masala. À la kulli hal, al-shahid, c'est que le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est voulu dans le din. Naam. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on voit la personne qui a beaucoup d'enfants, limite certaines personnes ont un regard mauvais. Naam. Un regard mauvais. Alors que Yaqub alayhi salam a dit à ses fils de ne pas entrer par la même porte. Dans le pays, il y avait plusieurs entrées. Il leur a dit, Troulou min abouab min mutafarriqa. Pourquoi ? Les savants du tafsir l'ont dit pour les préserver du mauvais œil. Parce qu'une dizaine de garçons qui arrivent tous en bonne santé, qui sont beaux, ainsi de suite, c'était un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'était connu de tous que c'est ni'ma azim. Donc il a préservé ses enfants du mauvais œil. Ça, c'est le fin des Anbiya. Ça, c'est la compréhension des Anbiya. Non. Et Allah dans le Coran nous montre que les prophètes se mariaient, qu'ils avaient des épouses et des enfants. Non. Ils avaient des épouses et des enfants. Donc ça, c'est un marsal shari'i. C'est un marsal shari'i. Non. Et quand le shari'i nous montre des choses, le aql passe après. Et le aql salim, il suit le shari'i. La raison saine, elle suit les textes. Non. Quant à la raison qui n'est pas saine, par définition, elle est malade. Anas ibn Malik est resté au service du prophète والسلام, pendant 10 ans. La suite de cela. Oh Allah, allonge sa vie. Accorde-lui beaucoup de richesses et beaucoup d'enfants. Naam. Il a vécu plus de 100 ans. Naam. Ça c'est concernant sa vie, son âge. C'était le seul dont les palmiers poussaient 2 fois dans l'année. Ça pousse une fois dans l'année. Lui, ses récoltes, elles venaient plusieurs fois par an. Subhanallah. Et on disait que c'était la baraka de la dua du prophète alayhi salatu wassalam. Troisièmement, il a enterré plus de 100 enfants de sa main. Ou bien il a eu plus de 100 enfants. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Et c'est pas une femme qui lui a donné 100 enfants. Il y a eu plusieurs épouses, mais de sa main, il a enterré énormément de ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vécu tellement longtemps que même ses propres enfants décédaient avant lui. Naam. La base, c'est que ce sont les parents qui enterrent les enfants ou les enfants qui enterrent les parents et les proches qui les ont précédés. Sans aucun doute, les enfants. Ça, là, là. Et ça peut, le contraire arrive aussi. Mais la grande, grande majorité, sans aucun doute, que c'est les enfants qui enterrent les plus grands. Ça, là, là. Anas ibn Malik de sa main a enterré énormément de ses enfants. Donc, tu vois la baraka de la mère qu'il a eue, subhanallah. Al-Umm Madras. La mère, c'est l'école à elle toute seule. Si la mère est pieuse, intelligente dans son tasarruf avec son enfant, il se peut qu'avec une dua ou un comportement qu'elle a une fois dans sa vie, cet enfant ne cesse de vivre dans les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lisez Tarajim al-Ulama, lisez la Tarjama d'Ibn Taymiyyah, la Tarjama d'Ibn Sirin, de Sufyan al-Thawri, de l'imam Ahmed, de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Malik et d'autres. Combien la baraka qu'ils ont eue ont pour cause leur mère? Naam. Une telle emmène son enfant à Rabi'a, une telle emmène son enfant à telle, une telle emmène son enfant à telle, dans les assises des ulama. Umm Sulaym a emmené son enfant au prophète alayhi salatu wassalam. Il a pris de lui la science, il a pris de lui le comportement, il a appris de lui l'ilm, wa hakada. Naam. Donc si tu connais un savant, une personne pieuse, c'est une bonne chose de prendre ton enfant avec toi et tu vas visiter cette personne. Naam. Et tu cherches à ce que ton enfant prenne le bien de cette personne-là. Wahakada. Anas ibn Malik, un des plus grands rapporteurs de hadith. Et il a beaucoup de mérite. Par la suite, Umm Sulaym a été demandée en mariage par Abu Talha radiallahu anhu. Avant son islam. Elle lui a dit, Mithlouka la yurad. Quelqu'un comme toi ne se refuse pas. Abu Talha, c'était une personnalité chez l'Ansar. Chez l'Ansar, l'Am. Elle lui a dit, voilà, Kenya Kamrou Mouchik, mais tu es un associateur, Wani Muslima, elle suit une musulmane. Fa'in Aslam Tafada Kamahari. Allah Akbar. Elle da'wa même dans ça. Elle lui a dit, si tu te convertis, ça sera ma dot. Par la suite, il s'est converti à l'islam et il l'a épousé. Et il l'a épousé. Allah Akbar. Donc, Anas ibn Malik a vécu dans cette maison pieuse. Et Allah Azza wa Jal lui a donné une famille très pieuse. Par la suite, Naam, Allah Azza wa Jal leur a facilité les enfants pieux. Et vous reviendrez, Inch'Allah Ta'ala, leur tarjama, leur biographie qui est des plus magnifiques. Que ce soit là, celle de Anas ibn Malik, ou celle de Abu Talha, ou celle de sa mère, Mada, Umm Sulaym. Mais Abu Talha n'est pas le père de Anas ibn Malik. Il s'appelle Ibn Nadr. Mais celui qui a épousé sa mère par la suite. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, mawdou' al-hadith, hukmu al-sahour. quel est le thème de ce hadith? C'est ماذا? Le jugement du sahur. Naam. Vous voyez comment est-ce qu'on avance dans l'explication. Premièrement, on lit le hadith. Deuxièmement, on dit sa source, sachant que pratiquement tous les hadiths sont Sahih Bukhari et Muslim, sinon dans un des deux. D'accord? Troisièmement, le sahabi qui le rapporte, un minimum le concernant. Quatrièmement, le sujet du hadith. Cinquièmement, les termes qui peuvent être problématiques. As-sahur, que signifie sahur? Faqdurullah, que signifie ce terme? Plus le son général du hadith, plus ce qu'on tire du hadith. Est-ce que c'est compris? On étudie ainsi. Vous notez à chaque fois les points, vous les mémorisez. Puis lorsque tu lis un hadith, tu avances comme cela. C'est comme ça que les savants du hadith procèdent. Et les fuqaha et les muhaddithoun ont à peu près la même méthode, si ce n'est que certains sont plus axés sur certains domaines et d'autres sur d'autres domaines. Mais c'est la méthode de nos ulama qu'il faut suivre pour avoir la bonne compréhension du hadith et tirer profit des hadiths. Ça, c'est la tariqa dans le hadith. La tariqa dans les livres de fiqh, c'est notre tariqa. Quand tu étudies le fiqh, tu dois apprendre à étudier le fiqh. Quand tu étudies les hadiths, tu dois apprendre à étudier le hadith. C'est muhim jiddan d'apprendre à étudier. C'est pour cela que les ulama disent, tu n'étudies pas tout seul. C'est pour ça que les ulama disent, tu n'étudies pas tout seul. Voilà. Et si tu es dans un endroit où il n'y a pas les ulama, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les livres des ulama, les autres des ulama, si tu as une compréhension, tu as un niveau minimum dans talbi'il, et dans talbi'il, et ce qui te posera problème, tu vas appeler les ulama et leur poser, les questionner dessus, avant et aller d'appliquer, puis de transmettre. Voilà. Et inutile de dire que lorsque tu es dans une assise, il te faut avoir de quoi écrire une âme pour taqid al-ilm al-fawa'id. Je pense que c'est un rappel que on a passé cette table, nous l'avons passé. Le fait de venir dans une assise de science, sans aucun doute, tu as de quoi écrire, tu as de quoi noter, et ainsi de suite. Wa billahi tawfiq. As-sahur bi fathi s-sin huwa at-ta'am. As-sahur, avec la fatha sur le sin, as-sahur, comme ça, ça, d'accord? C'est la nourriture mangée au temps du sahar. Et le sahar, عند العرب, yabtadi'u min ba'di muntasafi al-layl. Min muntasafi al-layl. As-sahur, dit comme ça, avec la fatha sur le sin, c'est le repas qui est pris, que ce soit à boire ou à manger, qui est pris dans le temps qu'on appelle le sahar. Allah dit dans le Coran, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dans le temps du sahar, il demande pardon. D'accord? Quel est le temps du sahar? Chez les Arabes, le sahar, c'est la fin de la nuit. À partir de la moitié de la nuit, jusqu'avant le fajr, comment est-ce qu'on appelle ce temps-là? As-sahar. Le repas qui est pris dans ce temps-là, comment est-ce qu'on appelle? As-sahur. Pourquoi on l'appelle as-sahur? Parce qu'il est pris où? Dans le sahar. D'accord. Nous avons également le terme qu'on appelle as-suhur. Bidam-sin. Ma huwa as-suhur? As-suhur huwa al-fi'l. As-suhur, c'est l'action de prendre le repas dans ce temps-là. Est-ce que c'est compris? Qu'est-ce que le sahar? C'est le temps à la fin de la nuit. Je peux dire que ça commence à la moitié de la nuit. Qu'est-ce que le sahur avec la fatha? C'est le repas qui est pris dans ce temps-là. Que ce soit un verre d'eau, que ce soit une date ou une table, à boire ou à manger. Tout cela est appelé sahur. Qu'est-ce que le suhur? C'est l'action de faire cela. Est-ce qu'on a un autre exemple? Ou juste en changeant la fatha et le dhamma? Al-wudu, barakallahu fik. Que signifie al-wudu avec la fatha? C'est l'eau utilisée pour faire la purification. Que signifie al-wudu avec la dhamma? C'est l'action de faire la purification. Est-ce que c'est clair? Non. Qu'est-ce qu'on appelle fadl al-wudu par exemple, ou l'wado? C'est ce qui restera de cette action. Fadl al-wudu, c'est ce qui reste de cette action. Ce qui est resté comme eau après avoir fait l'wado, ce qui est tombé. Ceci étant compris, poursuivons. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit tasaharu, prenez le repas du sahur. Aykulu aklat as-sahar, c'est-à-dire manger dans le temps du sahar. Fi istihbab dhalik, on tire de ce hadith le caractère recommandé de prendre ce repas, c'est mustahab. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est wajib? Alors que l'amr est wujub, alors que l'ordre nous enseigne, nous montre, nous indique, na'am, que c'est une obligation. Parce qu'il y a une qarina, parce qu'il y a des indices qui nous montrent que l'ordre est descendu au niveau de l'istihbab. Est-ce que c'est compris? Quelle est la qarina, quelle est la preuve? Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'mal bil wisal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce qu'on appelle le wisal. C'est-à-dire qu'il liait un jour de jeûne avec un autre jour. Il jeûnait par exemple le lundi dans Ramadan et il continuait aussi le mardi sans rompre entre les deux. Comment est-ce qu'on appelle ça? El wisal. D'accord? Il le faisait lui, mais il a interdit aux sahaba de le faire. Et il a dit, celui qui veut le faire, qu'il le fasse jusqu'avant le fajr. C'est-à-dire qu'il ne coupe pas au maghrib, il continue, mais avant le fajr, il prend quelque chose. Wadah? Naam. Donc, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wissal, ça montre que ce n'est pas obligatoire, mais mustahab. Tasaharu. فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. Car il y a dans le repas d'avant le fajr, au milieu, aux deux tiers, à la fin, juste avant, peu importe, bien qu'on verra par la suite le meilleur moment dans un autre hadith, il y a le baraka. C'est-à-dire, في هذا الأكل, dans cette nourriture, il y a une baraka. Dans le fait de prendre ce repas à ce moment-là, il y a une baraka. Et les savants ont dit, c'est encore plus vaste que cela, même si là, en premier lieu, c'est ce qui y entre. En d'autres termes, il y a le baraka dans le fait de prendre le repas à la fin de la nuit, parce que ça reste. Tu as mangé un peu au maghrib, tu as mangé un peu après, avant l'Isha par exemple, après Taraweh. Quelle est la part qui va le plus rester en toi et qui va te renforcer dans la journée pour jeûner à Allah Azza wa Jal? C'est la dernière part. Donc c'est une baraka, cette nourriture va te renforcer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres savants ont cité encore plus de fawaïd. Et sans aucun doute, il y a beaucoup de sagesse. Même si l'imam al-Nawawi a dit qu'Abaliyah, c'est ce qu'on vient de citer. Non. Il y a une baraka diniya, religieuse, et une baraka dunyawiya, mondaine. La baraka religieuse, bi-ittiba, du fait que tu as suivi le prophète sallam. Il y a une baraka, parce que al-khayr, kullu al-khayr fi-ittiba'i man salaf, parce que toute la baraka est dans le suivi de ceux qui nous ont précédés à leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans son suivi, il y a tout le khayr. Deuxièmement, il y a une baraka dunyawiya. Pourquoi? Parce que tu te fais plaisir en mangeant. Tu veux manger des choses, tu les manges. Dans Sayyid Baraka, le Baraka c'est un concentré de bien dans une chose qui reste et qui augmente. Donc le fait que tu aies voulu la chose, tu l'aies prise, ça c'est une Baraka, c'est un khayr. Aussi tu préserves ton corps, tu renforces ton corps, c'est une Baraka. Aussi tu t'éloignes de ce qu'on appelle el malal, la lassitude. Aussi tu t'éloignes de le mashaqqa, la difficulté. Parce que si tu jeûnais sans rompre entre les deux, que se produirait-il? Ce serait difficile pour toi. Et celui qui jeûne en pensant qu'à son ventre, il en oublie la sagesse du jeûne et de faire les adorations. D'accord? Alors que lui a mangé, donc il lui reste quelque chose. Malgré la difficulté, il lui reste quelque chose. Et il ne trouve pas de lassitude à recommencer un autre jour de jeûne et à reprendre le surlendemain un autre jour de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Il y a un changement. Il mange, il boit et ainsi de suite. Alors que en restant en état de jeûne, le lendemain, il va être difficile, il ne va pas prendre autant de plaisir. Il ne va pas prendre autant de plaisir dans cette adoration. Ça aide à adorer Allah Azza wa Jalla dans la journée. Ça aide à qiyamul layl, qui est voulu dans les nuits de Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ça aide à adorer Allah Azza wa Jalla la nuit, particulièrement avec les prières de nuit, Et c'est voulu dans Ramadan. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Ça aide à Qiyamul Layl et ça aide à prier le Fajr à l'heure en groupe. On voit aussi de ce hadith Kamal al-Sharia, la perfection de notre législation. Et la préservation du corps en islam. Le fait de préserver son corps en islam. Naam. On est à l'époque, ils disent qu'on est à l'époque de quoi? On est à l'époque du bio, n'est-ce pas? Ils disent le bio, le bio. Même s'ils dépassent, beaucoup d'entre eux dépassent les limites. Certains même disent qu'il ne faut pas manger de viande. Allahu Akbar. Naam. Certains disent qu'il ne faut pas manger de telles choses. Alors que le prophète les a consommés, ils ont dépassé les limites. Et c'est Ibn Adam, subhanallah. Il a un khair, il a une idée, mais il faut qu'il transgresse. Naam. Qif inda haddik akhi. Reste à ta place, reste dans les limites du din. Pourquoi yani, c'est pas ça que le problème, c'est pas que ça. C'est qu'ils s'interdisent à eux des choses, puis elles interdisent au mari de ramener des choses dans la maison qui leur sont licites. Naam. Je rentre même pas dans le prix. Ça, c'est une autre histoire. Mais Allah Azza wa Jalla a rendu licite telle boisson. Pourquoi est-ce que tu la rends presque illicite? Allah Azza wa Jalla a rendu licite tel légume et tel fruit, telle viande et telle. Toi, tu viens, tu dis non, faut pas manger de viande. Faut pas manger de viande. Faut pas manger de telle chose. Faut pas boire de lait. Faut pas rakala. Regarde, un tel a fait une vidéo sur le lait. Un tel kada. On accepte le haq de quel. Yani, d'où que ça nous vienne, on l'accepte. Mais s'il vient, il est musadim li shara wa sunna, à ce moment-là, on fait devancer shara wa sunna. Attention. Attention. On accepte le haq d'où qu'il nous vienne. Sahulala. Mais si cette chose-là vient en contradiction avec certains textes, le prophète alayhi wa sallam a pris un grand récipient de lait, il en a bu, puis il l'a donné à Abu Huraira qui en a bu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le lait c'est mauvais, le prophète sallam buvait du lait. Là. Bihad al-Itlaq, yani hada ghalat. Le fait d'attribuer cette parole-là de manière absolue, c'est faux. Amma, si tu dis que le lait de certaines bêtes, ou le lait qui est coupé de telle manière, il y a une nuisance partielle pour l'enfant ou l'adulte, ou ça on laisse les professionnels en parler. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde est professionnel, subhanallah. Hein? Tout le monde est professionnel. Tu peux manger ça, tu peux pas boire ça. Si tu as mangé ça, tu peux pas boire ça après. Non, ça avec ça, c'est pas bon. Subhanallah, le professionnel l'a fait. Non. Si tu bois du lait, t'as pas le droit de manger ça. T'as pas le droit de boire ça. T'as pas le droit de manger ça. Et on voit que le prophète l'a fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font devancer la parole de certains professionnels sur la parole du grand savant, de celui qui a été éduqué par Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète. Il faut faire attention. Naam, faut faire attention. Premièrement, c'est pas ton domaine. Pour la plupart de ceux qui parlent ça, c'est pas ton domaine. Il vient, il te fait une conférence sur un sujet. Tu dis, après toi, t'as fait des études dans quoi? Le frère a fait des études dans. Et allez, on méprise aucun domaine. Mais par exemple, son travail à lui, c'est ingénieur. J'ai pris quelque chose d'élevé pour pas que soit mal vu. Ou c'est un boulanger, ou c'est un charpentier, ou c'est un mécanicien, ce que tu veux. Ou il n'a pas fait d'études. Non. Ou il n'a pas fait d'études. Ou bien son domaine, c'est le Coran, même, si tu veux. Puis il vient, il parle dans le lait, comme s'il était nutritionniste, ou diététicien, ou fermier. Subhanallah. Chacun parle dans son domaine. Chacun vient et parle dans son domaine. Et s'il a pris l'information d'un professionnel, il transmet l'information s'il veut au maximum. Naam. Amma qui rend la vie difficile à son épouse, ou elle à son époux, puis aux enfants, puis aux voisins, puis aux parents, puis à tous ceux qui viendront les visiter. Même ils vont chez les gens, ils rendent difficile les choses chez les gens. Subhanallah. Ça c'est du relou. Ça c'est de l'exagération. Ça c'est de l'exagération. Naam. Et cette même personne qui dit je bois pas de lait. Naam, je bois pas de lait. Naam, c'est la même personne que tu vois manger des grecs. Sahlala. Et akhi, tu manges super mal dans tel domaine, ensuite tu viens disputer les gens parce qu'ils ont bu un verre de lait. Là, i'adil, sois juste. Naam, i'adil, sois juste. Wallahu musta'an. C'est juste une parenthèse parce que certaines personnes rendent aux autres la vie dure. On voit de ce hadith samahatu sharia wal adl. Na'am. On voit de ce hadith la mansuétude de cette législation, sa douceur et sa miséricorde. Fa huwa dinur rahma yu'ti kulla dhi haqqin haqqa wal badana haqqahu wa ladhata. On voit que c'est une religion qui donne à chacun son droit, et parmi ces droits-là, les droits du corps. Lui accorde son droit et même son plaisir. Et son droit dans Raha, regardez la justice, il y a son droit dans Raha, dans la tranquillité, le repos, et il y a son droit dans l'ibada et l'adhad ruh, le plaisir de l'âme dans le fait de adorer Allah Azza wa Jalla, puis son plaisir et son repos dans le fait de manger et tout ce qui est licite avec cela. On voit ici la, le caractère très savantissime du prophète alayhi salatu wassalam dans l'enseignement, du fait qu'il cite le jugement et la sagesse. Il dit tasahharu. Na'am, ça c'est l'ordre. Fa inna fi sahuri baraka. Il nous cite la sagesse pour nous faire encore plus aimer le din. Et de là, tu comprends l'éducation que doivent donner les parents aux enfants. C'est que tu lui donnes l'ordre, mais tu lui montres la beauté de la chose et pourquoi lorsque la sagesse nous est citée. Et en même temps, tu lui expliques que ça n'est pas parce qu'on connaît la sagesse qu'on le fait, mais on se soumet à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais si, et lorsqu'on connaît la sagesse, on la cite. Pourquoi? Pour rattacher l'ordre, na'am, à la sagesse. Et de cela, on voit la perfection de l'islam. Et notre cœur s'accroche encore plus à la chose. Et on aime encore plus Allah tabaraka wa ta'ala et cette législation. Et dans ça, nous, éducateurs que nous sommes, nous avons de grandes lacunes. Na'am. C'est-à-dire qu'on dit, fais ça, fais pas ça. Non, fais ça car le prophète alayhi salam nous a enseigné ça. Fais cela car il y a le paradis. Fais, délaisse cela car il y a l'enfer. Ça, c'est une meilleure éducation. Nas'alullah azza wa jalla yuwaffiqana wa yatuba alayna. Ainsi, le serviteur a la poitrine plus madha élargie aussi à l'acceptation. Al-hadith al-rabi', le quatrième hadith, عن أنس نعم تسحر نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذن والسحور قال قدر 50 آية. Ce hadith également dans lequel Al-Bukhari de l'imam Muslim. Anas, à nouveau, nous dit, d'après Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, nous prîmes le sahur avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le sahur, et nous avons fait cette action-là. Puis nous levâmes pour prier. Alors j'ai dit, c'est-à-dire que Anas a questionné Zayd. Combien de temps y avait-il entre les deux? Combien de temps y avait-il entre l'adhan et la prière? Al-maqsoud bil adhan huna al-iqama. Ce qui est voulu dans ce hadith par l'adhan, c'est l'iqama. C'est compris? Deux causes. Premièrement, l'adhan dans les textes, Al-Iqama dans les textes, c'est parfois appelé Al-Adhan. Al-Iqama dans les textes, c'est parfois appelé Al-Adhan. Comme on l'étudiait dans Ma'adha Al-Kalim al-Tayyib. Na'am bayna kulli adhanay salah, par exemple. Entre chaque deux adhan, il y a une prière. C'est quoi le deuxième adhan? C'est l'Iqama. Na'am Tayyib. Et ici, il y a encore une autre preuve qui montre que l'Adhan ici, c'est l'Iqama. C'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik nous dit, thumma qama ila salah. Puis il s'est levé pour faire la prière. C'est-à-dire, plus on s'est levé, on a prié. Après quel adhan tu te lèves pour prier? La prière obligatoire en gros? Après l'iqama. Donc, comme l'ont dit les ulama qui ont expliqué le hadith, on dit c'est l'iqama qui est voulu ici. Donc, combien de temps y avait-il entre l'adhan, c'est-à-dire l'iqama, et la prière? Zayd répondit, le temps de rester 50 versets. Le temps de réciter 50 versets. Soit du début du Coran, ou bien des versets mutawassita. Des versets mutawassita. Ça ferait combien? Certains savants ont dit, j'ai essayé. Na'am, et ça fait moins de 10 minutes. Entre, moins d'un quart d'heure ou moins de 10 minutes. C'est-à-dire que c'était très proche. Très, très proche. Non. Donc, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous rapporte que Zayd ibn Thabit radiallahu anhu a dit qu'ils ont pris le repas du matin avec le prophète alayhi wassalam, puis ensuite ils se sont levés pour prier. Ici, موضوع الحديث بيان وقت السحر. Le sujet du hadith est d'exposer le moment du repas d'avant le fajr. Quel est le meilleur moment du repas d'avant le fajr? Parce qu'on a compris que c'est une sunna. Et on a compris que ça, c'est dans la nuit, avant le fajr, après le milieu, dans la langue arabe. Mais y a-t-il un moment méritoire? Y a-t-il un meilleur moment, meilleur qu'un autre? Na'am. Ce hadith en est l'exposition et la preuve. لما كانت الحكمة أو لما كانت حكمة السحور تقوية الجسم على الصيام وحفظ نشاطه كان من الحكمة تأخير. Du fait que la sagesse de prendre ce repas et renforcer le corps pour jeûner ce jour-là et adorer Allah Azza wa Jal, la sagesse veut que le meilleur moment du repas soit le plus proche possible du fajr. Est-ce que c'est compris? La sagesse est de renforcer le corps pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. Donc, plus tard tu manges, mieux ton corps est renforcé. Deuxièmement, rifqan bil umma, par douceur envers la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un imam muttaba. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était suivi. À son époque, on ne disait pas, est-ce que c'est wajib ou c'est mustahab? Est-ce qu'il y a une divergence? Il n'y a pas une divergence sur ce sujet? Non, on ne parlait pas comme ça à son époque. À son époque, قَالُوا سَمِعَنَا وَأَطَعَنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. C'est comme ça qu'il parlait. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. Parlez comme ça. Ils ne se trouvaient pas le choix dans leur façon d'agir après qu'Allah Azza wa Jalla son messager ait décidé d'une chose. Leur parole était que de dire nous avons entendu et nous obéissons. Pas comme le font certaines personnes aujourd'hui. Est-ce que c'est obligatoire ou recommandé? Il n'y a pas une divergence. Dès que ça contredit ses passions, il n'y a pas une divergence. Mais toi, tu as agi, tu n'es pas venu questionner ce qu'il y a une divergence ou pas. Pourquoi lorsqu'on te demande d'agir selon ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, à ce moment-là seulement tu demandes s'il y a une divergence parce que ça contredit tes passions? Non, là. Et tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Il y a une douceur ici envers la communauté. Le prophète sallam savait qu'il allait être suivi. Si le repas avait été pris au milieu de la nuit, sahaba se serait levé au milieu de la nuit pour le prendre. Cela aurait été donc difficile pour eux et les suiveurs de la sunna auraient fait pareil par la suite. Ensuite, le fajr aurait été très difficile. Sahaba. Et ensuite, le jeûne aurait été difficile. Et ensuite, les gens auraient peut-être dû délaisser une partie de Tarawih pour aller manger parce que c'est la sunna et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par douceur pour la communauté, a fait cela. Et c'est ainsi que tu dois, si tu sais que tu es regardé, si on surveille tes agissements pour te copier parce que tu as de la science, parce que tu copies toi le prophète alayhi wa sallam, tu dois être doux envers les autres. Quand tu as le choix, fais ce qui est facile. Tu es en voyage et des gens te suivent et tu es l'imam. Fais ce qui est facile pour eux. Dis-leur, moi, ou sinon dis-leur, moi je fais comme ça, mais tu as le droit de faire ça et ça et ça et ça. Non. Allège quand tu peux alléger. Allège lorsque tu peux alléger. Surtout les faibles. Et ceux qui aiment les choses plus faciles. Les choses plus faciles. Tu ne viens pas dire aux gens, par exemple, faites le jeûne de Daoud. Un jour tu jeûnes, un jour tu rends. Tu lui dis comme le prophète a dit, jeûne 3 jours dans le mois. S'il te dit, je veux faire plus, je peux faire plus, ajoute. Dis le prophète a dit, jeûne le lundi et le jeudi, par exemple. Wahakada, tu lui donnes. Mais tu ne viens pas avec une chose qui est lourde pour l'âme ibtida'an. Naam. Parmi les sagesses de ce hadith, les fawaid du hadith, ta'khir as-sahur min as-sunnah. Parmi la sunnah du prophète, retarder le repas de la nuit d'avant le jeûne. On voit ici Miqadri Khamsina Aya, le temps de 50 versets. Donc tu comptes, Naam, tu comptes avec des choses que l'on va comprendre de toi. On te dit, c'est quoi la distance d'ici à là? Naam, tu dis comme la distance de tel endroit à tel endroit. Tu lui donnes une image qu'il va comprendre parfaitement. Et eux, tu es rattaché au Coran. Regardez ici l'exemple, subhanallah, le temps de lire. Hein? Le temps de lire 50 versets. Pas 50 traductions de versets, 50 versets. Naam. Et on voit ici l'ihtiyat fi at-ta'abbud. On voit le fait de prendre ses précautions dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Nous, on prend nos précautions dans dunya, mais on ne prend pas nos précautions dans din des fois. 50 versets, ça veut dire quelques minutes. Naam. Tu peux manger jusqu'avant le fajr. Même une minute. Ma fi mushkil. Mais tu prends tes précautions pour préserver ton siyam. La ba's. Naam. La ba's. Contrairement à ceux qui viennent à l'heure du fajr et ils mangent pendant le fajr. Hein? Ils disent par exemple, il y a un khilaf kaza. Non, subhanallah. Pourquoi cela m'a arrêté un tout petit peu avant? C'est pas obligé d'arrêter un petit peu avant. Mais tu rentres pas dans le fajr et tu manges. Non? Comme certaines fitaines qu'on avait à certaines époques, c'est que les gens divergent sur des calendriers. Il vient dans une mosquée qui arrête par exemple 10 minutes avant ce que lui suit. Dans le masjid devant tout le monde, il prend un verre d'eau, il boit. Il dit, moi je tabbata sunna. Allahu Akbar. Hada khilaf as-sunna. Hadi fitna wa jahl. Ça c'est une ignorance et c'est une fitna que tu mets dans le masjid. Non. Si les gens dans un endroit yani, se sont arrêtés en suivant des ulama à telle heure, toi tu viens dans le masjid et devant tout le monde tu manges et tu bois et tu dis moi je suis sur la sunna et vous êtes tous égarés. Ça c'est pas sunna. Ça c'est pas sunna, ça c'est fitna. Naam. Et il y a l'autre extrême de l'autre côté. C'est qui? C'est ceux qui ont mis Al-Imsak dans les calendriers. Hadi bid'a. Ça, sincèrement, ça c'est une bid'a. Le fait de dire qu'il y a un moment précis où tu dois arrêter autre que ce qu'Allah nous enseigne dans le Coran. Naam. C'est-à-dire la distinction entre le khayt al-abiyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Naam. C'est ça l'alama shar'iyya. C'est ça le signe religieux. Par contre, ce qu'il y a sur les calendriers 30 minutes avant ou autre, ça n'a pas de base dans la religion. Tu n'as aucunement à suivre cela. D'accord? Mais arrête avant le fajr. Mais arrête avant le fajr. D'accord? Qu'en est-il de celui qui entend l'adhan et il est en train de boire ou manger quelque chose? Quel comportement devra-t-il observer? Celui qui est en train de boire, Naam, le prophète lui dit de finir. D'accord? Donc si tu as, écoutez bien, cette question elle est souvent posée, retenez. Si tu es en train de boire quelque chose, le verre est dans ta main et tu es en train de faire l'action, puis tu entends l'adhan, le prophète sallam te dit que tu peux finir. Est-ce que c'est compris? Tu as le droit de finir ce que tu as commencé. C'est vrai? Est-ce que c'est clair les frères? Fahimto? Fahim. Le deuxième cas, c'est celui qui a entendu l'adhan et il n'avait pas commencé cette action. C'est-à-dire, yunshi'u sharbatan jadida. Lui, il va faire une nouvelle action après le début du adhan. Il va prendre la chose et il va la porter à sa bouche. Celui-ci n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que le fajr est entré et il va faire une nouvelle action. C'est interdit. Est-ce que c'est wada? Si il fait cela volontairement ce jour-là, il devra le rattraper, il n'est pas. Voilà. S'il est ignorant, à ce moment-là, les savants ont parlé dans cette mas'ala. On détaillera, inshallah ta'ala, dans un autre contexte. Le troisième cas, c'est celui qui pensait que le fajr n'était pas entré, parce qu'il n'y a pas l'adhan où il est, et il se basait sur donc un calendrier, et il s'est trompé. D'accord? Il s'est trompé. On verra un hadith qui va venir très prochainement, que il a fait ça par erreur. Donc son jeûne est valable. Non, son jeûne est valable. Ou bien par oubli, son jeûne est valable. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. C'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Non, il a fait cela par oubli ou bien par erreur. Son jeûne est valable et il ne perd même pas en perfection. Il le continue et il n'a pas à le rattraper comme on le verra dans le hadith suivant.
Non.
Et parmi la voie de Ahlul Hadith, c'est de ne pas faire ce que je viens de faire comme erreur. C'est-à-dire que je donne les fawa'id du hadith qui vont venir après. Donc, rifqan bil umma, par douceur sur la communauté, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la sens qu'il y a dans ce hadith et tu cites quelques fawa'id janibiyya. Mais si ça vient dans l'autre hadith, tu le laisses. Comme ça, lui, il maîtrise ce hadith-là et il prend la sens de l'autre hadith, donc tadarrujan petit à petit, afin qu'il maîtrise. Ça, c'est la tariqa de Ahlul Hadith. Par contre, le fuqaha, comme on fait en général dans nos cours, c'est que tu prends toutes les fawa'id. Non. Et tu cites ensuite les ahadiths. D'accord? Tu prends les ahkam, tu réunis donc différents ahkam de différents textes. D'accord? C'est plus facile à mémoriser. Puis tu cites les preuves avec les ahadiths. On voit hirsu sahaba à l'ijtima' bin nabi sallallahu alayhi wa sallam l'istifadati min. On voit la motivation des compagnons quant au fait de prendre place avec le prophète alayhi salatu wassalam pour apprendre et tirer profit de sa science. Il venait toujours le voir. Combien de hadith dans lesquels nous trouvons kunna ma'a rasulillah, kunna ma'a nabi, kan kuntu jalisan, kuntu wa hakada. Combien de textes on est assis en compagnie du messager d'Allah. Nous sommes partis voir le messager d'Allah et ainsi de suite. Tout comme on trouve que tabi'in, nous sommes partis voir les sahaba. On espérait qu'Allah nous facilite la rencontre des sahaba. Wakad. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une sunnah. Les gens qui partent l'umra, les gens qui partent le hajj, les gens qui voyagent, ils cherchent à rencontrer les ulama. Ils cherchent à rencontrer les ulama de la sunnah et profiter de leur science et leur exposer leurs problèmes et chercher réponse à leurs problèmes et conseils. Wakada. Allah le muwaffiq. On voit tawadhu' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, on voit le caractère humble et la générosité et la facilité du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il se prenait place avec qui? Sahaba, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On aurait pu trouver un gouverneur dans sa, ou un grand savant, tu ne vas pas voir dans son assise les gens comme ça. Sahaba, le commun des sahaba, non. Tu trouves que les grands ulama et les grands rois, ils mettaient dans leurs assises des gens qui peut-être sont insignifiants pour nous. Na'am, mais ils ont une place peut-être chez Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ils ont une place peut-être chez Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am, Allah musta'an. On voit de ce hadith qadru imsaki nabi sallallahu alayhi wa sallam qabla al-fajr. On voit la part du temps que le prophète sallallahu alayhi choisissait pour arrêter de manger. On tire aussi une fa'ida, c'est le fait de faire vite le fajr quand les gens jeûnent. C'est-à-dire, ils se sont levés tôt, ils ont attendu longtemps, ils sont venus tôt. Et nous, on va venir faire l'imam. D'accord? Des fois, tu peux prendre ton temps avant de faire l'imam. D'accord? Même si maintenant les gens sont dirigés par des choses électroniques, bien que ce n'est pas à sunna. Naam, c'est quand l'imam se lève, on se lève. Ma'adha. Ou bien tu fais rapidement. Des fois, le prophète, on voit qu'il faisait ça, des fois, on voit qu'il faisait ça. Ici, il faisait rapidement. C'est-à-dire, il y avait l'adhan, faisait dans la kara, et rapidement, il faisait le fajr. Parce que les gens attendaient. Parce que les gens étaient fatigués. Donc, l'imam doit prendre en considération l'état des fidèles. Est-ce qu'il allonge la lecture ou pas? Il prend en considération l'état des fidèles. Est-ce qu'il prie rapidement ou pas? Est-ce qu'il, il prend en considération toujours l'état des fidèles. Ça, c'est la douceur du prophète, alayhi salatu wassalam, envers la communauté. On va finir sur un dernier hadith. Ou bien est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? On laisse cela pour un prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Et Ma'adha, tout comme vous avez reçu ce programme, vous regardez sur le site Inch'Allah, la voie droite, ou bien ceux qui reçoivent nos messages, on va faire un programme, Na'am, savoir les moments de ces assises, Inch'Allah Ta'ala, et on s'y tiendra. Na'am, et si Allah Azza wa Jalla nous facilite le temps, on lira également 15 minutes de Adab Hamalat al-Qur'an ou Akhlaq Hamalat al-Qur'an de l'imam al-Ajurri, Na'am, le comportement des lecteurs du Qur'an. Vu que nous sommes dans le mois du Qur'an et la vie entière du musulman c'est avec le Qur'an et plus particulièrement dans le mois de Ramadan. Et Inch'Allah Ta'ala, un petit peu avant le Maghreb, lorsqu'Allah Azza wa Jalla me facilitera cela, transmettrait certaines règles concernant Ramadan, na'am, comme al-mufattirat, na'am, ceux qui annulent le jeûne, et il y aura des mini-cours
Naam, il y aura des mini-cours, inshallah, peut-être avant le Maghreb, peut-être inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Combien de hadiths avons-nous lu? Nous avons lu 4. Naam, ahadith. Nous avons lu 4 ahadith. De qui était le premier hadith? Abu Huraira. De qui était le deuxième hadith? Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Omar. De qui était le troisième et le quatrième hadith? Anas ibn Malik. Anas ibn Malik. جزاكم الله خيرا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا وصلواتنا. اللهم يا حبيب يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم عنا على الصيام والقيام. اللهم عنا على الصيام والقيام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.